Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marie.
Bonjour Rita.
Sur les ondes de Radio Larzac International.
Rêverie brésilienne.
Devaneios brasileiros.
E onde a lua vem brincar?
Nous en sommes aujourd'hui à notre 48e émission et notre dernière émission de la saison 2014-2015. Pour parachever cette saison, j'ai décidé de faire une entorse à la musique et de vous emmener en promenade dans les mondes fantastiques des dessins et albums de Léo. Oui, Léo de Aldébaran, de Bételgeuse, de Antares, des survivants, mais aussi de Trent, Kenya, Namibia avec Rodolphe et de bien d'autres bandes dessinées, habités de créatures étonnantes, vivant sur les planètes aventureuses de l'univers imaginé par Léo. Pourquoi Léo? Car Léo est brésilien, comme moi, et nous partageons une longue et fidèle amitié. Bien sûr, j'ai demandé à Léo de nous lister ses derniers coups de cœur de la musique brésilienne. Cependant, l'entretien est tellement intéressant qu'elles seront pratiquement en fond sonore au long de l'émission. Ces musiques sortent du label Défi, lancé l'année dernière, duquel nous écouterons la voix de Maria Teresa, la guitare de Toninho do Carmo et le piano de Jean-Yves Candela. Racontez comment tu as commencé à écrire des bandes dessinées. Et après, tu racontes ce que tu voudras. Mais j'aimerais savoir par où as-tu commencé.
C'est une longue histoire, Rita. Ça va prendre tous les programmes.
résume.
J'ai commencé à faire la bande dessinée plus sérieusement quand je suis rentré au Brésil après avoir été au Chili et en Argentine.
Et pourquoi tu as été au Chili en Argentine?
À cause de la dictature brésilienne, of course.
Ah, d'accord.
Je suis sorti en 71 et j'ai rentré au Brésil en 74, quelque chose comme ça. Rentré au Brésil, j'étais ingénieur, non? J'ai un diplôme d'ingénieur. Mais ayant passé 3 ans, 4 ans hors du Brésil, je ne pouvais pas expliquer dans mon curriculum, cette absence du Brésil, qu'est-ce que je faisais pendant ces années-là. Alors, je ne pouvais pas travailler comme ingénieur. Et j'ai commencé à travailler comme freelance en dessin, en faisant des illustrations. Mais ça ne m'intéressait pas trop. Et j'ai commencé à m'intéresser à la bande dessinée, que j'aimais déjà depuis toujours. Et jusqu'au jour où j'ai vu chez des copains, des amis qui travaillaient dans le dessin à São Paulo. Ils avaient un studio, il avait un d'eux qui avait une collection de revues, des magazines français, Métal Hurlant, Pilote, etc.
Métal Hurlant, oui.
L'époque d'or, des bandes dessinées françaises des années 74, 15, 16. Et j'ai regardé ça, j'étais complètement sidéré. Complètement sidéré par la qualité du dessin et la qualité du scénario. Pour moi, c'était une découverte, un truc nouveau, quoi. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, j'aime bien faire ce genre de bande dessinée. Bon, bande dessinée pour adultes, avec un scénario bien élaboré, et avec un dessin, j'essayais d'imiter, d'arriver à ces gens de niveau. Qu'il y avait. Par exemple, il y avait une histoire qui m'a marqué, que c'était Blueberry, aussi des albums de belle époque de Blueberry, par exemple, Nez cassé, avec un détail, avec une habileté de dessiner les chevaux, les paysages. J'étais fasciné. C'était l'époque aussi où t'as paru les histoires de Bilal et Christin, avec des histoires sérieuses, politiques, avec ce dessin de Bilal, qui était un truc énorme. Et ça m'a sidéré, quoi. Et à un moment donné, j'ai décidé de sortir du Brésil, venir en Europe, et pour faire ça, quoi. Comme ça, pour l'aventure, je voulais sortir du Brésil. C'était un peu. Mon travail là-bas, c'était pas très intéressant. Je voulais sortir. Voilà, je viens en France faire la bande dessinée. Et c'est comme ça que j'ai fait des petites bandes dessinées au Brésil pour pouvoir montrer ici. En espérant, en attendant qu'en arrivant, je montrerai ça dans les maisons d'édition. Et les gens leur disent : Oh, c'est génial, on va vous publier. Et bah, pas du tout. C'était une longue traversée du désert. J'ai mis 10 ans pour pouvoir commencer à faire quai de la bande dessinée. 10 ans d'insister, de présenter des histoires, de revenir, de réessayer, de refaire, réécrire, redessiner. Il fallait être assez persévérant, quoi. Et c'est après 10 ans que j'ai pu arrêter de ce que je faisais, que c'était l'illustration publicitaire, et pour ne faire quai de la bande dessinée.
Et quelle est la bande dessinée qui a percé, qui a eu cette...
C'était la première bande dessinée que j'ai commencé à faire, genre professionnel, par exemple, c'était Trent avec Rodolphe. C'était
pas mon
scénario, c'était l'histoire de Rodolphe. Et disons que c'est mon entraînement du dessin, et ça m'a permis de perfectionner la façon de dessiner, et aussi... Ça m'a permis de perfectionner même la façon d'écrire le scénario, parce que Rodolphe, il avait déjà quelques années derrière lui, quand j'ai commencé à travailler avec lui. Il avait déjà beaucoup de bandes dessinées publiées, quoi. C'est un mec que je considère un très bon scénariste, très bon. Il écrivait bien non seulement le texte, mais il sait aussi faire un bon découpage, le rythme, l'enchaînement de l'histoire. Il fait des histoires que je trouve que c'est. Sont lisibles, faciles à lire. Oui. Et c'est le truc qui me plaisait, quoi, de ce genre d'histoire. Et je crois que j'ai beaucoup appris avec lui.
Et comment as-tu connu Rodolphe ?
C'était à l'époque où j'étais justement dans ma traversée du désert. Il m'appelle au téléphone. J'avais publié une petite histoire chez Okapi.
Okapi,
de magazine pour enfants, pour adolescents. C'était une histoire avec un dessin réaliste. Il avait une histoire semblable, avec un scénario semblable, histoire qui passait dans une prison. Il vient chez moi, il me propose de faire cette histoire. Je le connaissais, il disait oui, on va faire cette histoire-là. On commence à faire, on travaille ensemble, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ce n'est pas accepté. Et après, il revient avec un autre projet intéressant, c'était Hachette, il voulait transformer les bouquins de polar qu'ils avaient, le masque jaune, là, les petits bouquins jaunes, oui. Des classiques de polar, hein, ils voulaient transformer en bande dessinée. Et je me suis dit, waouh, c'est génial ça, c'est inépuisable, les collections de classiques de polar là. Et on a fait toute une histoire avec Hultabi, le mystère de la chambre jaune.
Ah. Le mystère de la chambre.
J'avais lu, j'avais adoré ça.
Oui.
Ce genre d'histoire très avec des mystères. Le mot, la porte est fermée par l'intérieur, ce genre de choses comme ça. On avait bien s'amusé à faire ça et ça n'a pas marché du tout. Au milieu du projet, j'ai dessiné un amour en entier, j'ai fait la moitié de la couleur de l'album. Hachette désiste de projet.
Ah.
Et là, je reste avec mon album, ils m'ont payé aussi, mais je reste avec mon album qui n'a jamais été publié. Pour moi, c'était une catastrophe. Je voulais publier un premier album pour apparaître, pour avoir mon nom. Non, là, il fallait recommencer à zéro. Et c'est pour ça que la traversée du désert a duré 10 ans, quoi. Et plus tard, Rodolphe m'appelle encore à nouveau, quelques années plus tard, en me disant, écoute, j'ai le projet du Trint qui a été accepté chez Dargaud, mais il cherche un autre dessinateur. Alors, j'ai fait des essais, ils ont accepté. Alors, j'ai dit, waouh, ok, premier projet, Trent avec Rodolphe. On attend la réponse définitive qui est pratiquement faite. Un mois passe, rien. Un jour, Rodolphe m'appelle, écoute, toute l'équipe de Dago a changé, les pilotes a changé, il faut qu'on repasse. Pour voir si la nouvelle équipe aime aussi encore la tristesse. Bon, Dieu l'a savait comment. Mais à la fin, ils ont aimé. Et c'était ma première série de longue année. On a fait 8 tours ensemble.
Parece que dizes te amo, Maria. Na fotografia estamos felizes. Te ligo afobada e deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tens um novo amor. Me vejo ao teu lado, te amo, não lembro. Parece dezembro de um ano dourado. Te quero dizer que não quero teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais.
Léo, e le premier à toi que tu as présenté, c'est tout de suite Aldébaran?
Aldébaran, oui. J'ai présenté ça. Disons, après le troisième, quatrième tome de Trent, troisième, je crois. C'était mon projet à moi, et c'était les gens d'histoire que j'aimais faire, parce que Trent, j'aimais bien comme personnage, mais c'était pas mon genre d'histoire. Mon genre d'histoire, c'était un truc plutôt science-fiction, plutôt imaginaire, plutôt comme ça, plus délirant, quoi. Et j'avais ce projet depuis très longtemps. L'histoire, j'avais commencé à écrire au Brésil. Je l'ai complètement réécrite ici, basé sur mon expérience ici. On mourit avec les années, on change. Voilà. J'avais réécrit cette histoire et j'avais peaufiné un projet. J'ai fait dessiner quelques planches et je présente chez Dargo pour le mec que je commençais déjà à connaître parce qu'on faisait Trent là-bas. Non, je me souviens que je lui ai dit. Et, écoute, j'ai un projet de science-fiction, un projet de science-fiction, ah, science-fiction, c'est déjà un peu passé de mode ça, bah, excuse-moi, mais c'est mon projet, ok, montre. Alors je lui montre comme ça, et il dit qu'il va m'appeler les jours suivants pour donner la réponse, il n'appelle pas. Et je lui dis, je pose avec moi, là. Ah, il n'a pas aimé, il ne sait pas comment dire, alors. Deux jours après, c'est moi qui l'appelle peut-être, et je lui dis, je lui pose la question, alors t'as lu mon projet? Oui, c'est génial ton projet, on va le faire, c'est génial ton projet. Il lâche, waouh, ouf, et voilà, il commence à se taire le voir, hein, il a aimé tout de suite, et il est parti, quoi. Mais il a démarré un parti très, très lentement. Le premier tome était très, très. Publication, comment dire. Les tirages étaient très bas, les ventes ont été très modestes. Le deuxième tome aussi. Il fallait justement passer au-delà de passer pour la barrière de l'éditeur, il fallait passer la barrière de lecteur, quoi. Si ça ne se vend pas, on arrête la série, c'est normal, non? Et c'est qui à partir du troisième ou quatrième tome que le truc, que les ventes déclenchent et que ça se tient, quoi, que ça prend son essor. Et voilà.
Alors, évidemment, tout le monde se pose cette même question, j'imagine, mais c'est la question que je vais poser, parce que chaque fois que nous disons, nous rencontrons des gens, et nous parlons de toi, de l'air, ou ils disent tout de suite, elle dit, bah, oh, c'est monstre, c'est fabuleux, d'où sors-tu ces monstres?
Oui, c'est la question que tout le monde se pose, oui. Mais il y a la réponse que je ne sais jamais donner, quoi. C'est difficile de dire d'où ça vient, non? Je me souviens que c'était une espèce de nécessité de l'histoire, parce que j'avais décidé de faire ma planète avec une apparence normale, entre guillemets. Non, je ne voulais pas faire une planète complètement mirobolante, pleine de trucs bizarroïdes. Je voulais faire une planète normale pour qu'il soit plus crédible, l'histoire. Ils avaient imaginé, comme je suis brésilien, né à Rio, ma planète va être chaude, verdoyante, au bord de la plage, dans la mer, comme c'est à devant. Et la végétation pratiquement normale, sauf des plantes bizarres par-ci par-là, mais pas beaucoup. Et la chose qui a donné au lecteur l'impression qui nous ne sommes pas sur Terre, c'était les bêtes, les animaux qui allaient apparaître. Là, je me disais, il faut que je dessine des bêtes étranges, des choses un peu parfois effrayantes, parce qu'il y avait aussi l'océan de Léban qui fait partie de l'histoire, qui est aussi un très grand et mystérieux, parce que les gens viennent d'arriver sur la planète, l'océan immense, les gens ne connaissent pas ce qu'il y a dans l'océan, les bêtes de l'océan, c'est difficile à connaître comme ça rapidement, non? Et même sur Terre, il y a des choses qu'on ne connaît pas jusqu'à aujourd'hui, t'imagines. Et alors, je me dis, il faut inventer des monstres assez étranges pour donner l'idée que nous ne sommes pas sur Terre, que c'est une planète lointaine. Mais je n'avais pas conscience qu'il allait devenir un truc comme ça, que tout le monde allait aimer les monstres. À la fin, c'est hyper amusant à dessiner, quoi. C'est devenu une espèce de défi pour faire des monstres qui soient crédibles, pas trop mirobolants. Et non plus, j'évite énormément d'inventer des choses qui pour faire des monstres. J'inventais des scènes aussi, des situations, des passages avec des monstres qui pour dessiner les monstres, pour que tout le monde aime les monstres. Non, les monstres entrent, les bêtes entrent dans l'histoire quand elles font partie de l'histoire, quoi.
Et comment ils apparaissent dans ton imaginaire, ces monstres?
C'est difficile à dire, par exemple, parfois au moment d'écrire déjà, je suis en train d'écrire le scénario, et le monstre est dans ma tête. Je sais déjà comment il va être, il est là déjà, je ne sais pas. Ça vient pouf, c'est dans ma tête. Et parfois non, parfois pas du tout. Parfois, par exemple, j'ai besoin d'un monstre qui soit effrayant, grand et dangereux, qui soit terrifiant. J'écris là, mais il n'a rien dans la tête, j'écris. Quelques mois après, j'arrive à ces passages-là à dessiner. Bon, je prends ma planche, bon, voilà, un monstre terrifiant. Et bon, un monstre terrifiant, parfois ça ne vient pas, quoi. Alors je commence à fouetter des bouquins, des dinosaures, des poissons de profondeur, des insectes. Ils ont des formes étranges, terrifiantes. Si on prend un insecte et on fait un agrandissement, il a des formes, des gueules horripilantes.
Horrible.
Alors j'utilise ça pour m'inspirer, je mélange poissons de profondeur avec insectes, avec un corps de dinosaure, des trucs comme ça, ça sort.
Il apparaît.
Parfois, j'ai fait les crayonnés, je laisse les crayonnés de côté, au moment de faire l'ancrage quelques temps plus tard, et je regarde, soit je dis oui, c'est bon mon monstre, ou alors je regarde, je ne suis pas content de ce monstre-là, je commence à retravailler le monstre, c'est un procédé comme ça. Parfois, il vient, pouf, et parfois, c'est dur à trouver la forme, la bonne forme, ça dépend, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça se passe.
Il y en a plein qui m'ont marqué, évidemment, mais il y a une situation qui m'horrifiait, que je crois même que j'ai rêvé, et que m'horrifie toujours, c'est cet animal ou cet être qui prend la forme des personnes. Et quand il se présente, c'était un chien qui venait un jour. Est-ce Kenyan ou est-ce Aldébaran? C'était un chien, ils disaient un chien adorable, mais ça sent mauvais, mais quelle odeur horrible et tout. Et en fait,
c'est Kenyan.
Kenyan.
Dans Aldébaran, il avait un animal qui prenait la forme de la proie qui s'approche,
oui, c'est ça.
Pour la faire approcher.
Oui.
Et c'était un crabe de sable qui
ne oui.
qui peut pas se déplacer, il reste enfoui sur le sable. Et dans Kenya, c'était un monstre horrible aussi, que c'était là, un peu plus mirobolant, c'était une espèce de parasite qui
oui.
tuait l'animal, entrait dans l'animal et à travers des petits filaments, allait dans les cerveaux de l'animal pour prendre comment l'animal se meut, comment l'animal se comporte, pour imiter, pour pouvoir s'approcher du congénère de cet animal.
Pour le monde manger aussi.
C'est oui. fou ça, non? C'est horrible.
C'est terrible. Cette bête, elle me faisait peur. C'est vrai.
Elle était moche.
Elle a dit c'est horrible. Moche, horrible. Voilà, horrible.
Je ne sais pas d'où j'ai pris ça. Oui. C'est moche, un mélange de vert, de vert.
Oui, oui, oui. Et donc, Aldébaran a décollé. Et tout de suite, non, pas tout de suite, c'est venu. C'était Kenya après. Tu avais déjà Kenya. Kenya, c'est la suite, pas la suite, mais
non, c'était parallèle à Liban.
Oui.
Parallèle à Liban. Kenya est venu d'une façon assez amusante. C'était moi et Rodolphe, on faisait Trent. J'ai commencé à dessiner Liban et Trent en même temps. On faisait l'un et l'autre alternativement. Trent arrivait déjà au 7e, 8e tome. Et Rodolphe écrivait tout seul le scénario de Trent. Et chaque fois, avant d'écrire le scénario du prochain tome, il parlait avec moi. J'ai envie de faire comme ça. Il me disait à peu près comment ça allait être la prochaine histoire. Et lui-même disait qu'il avait de plus en plus de difficultés à trouver la bonne histoire avec Trent parce que le temps avait passé. Par exemple, il avait une femme que Trent était amoureux dès le départ, la femme qu'il avait amoureuse, dans sa solitude. Dans les neiges canadiennes, et à la fin, au 8e tome, ils sont ensemble.
Oui.
Alors, ils
oui.
se marient, ils sont ensemble, là, commence à déjà à devenir compliqué. C'est plus les roues solitaires, c'est des roues qui étaient déjà mariées, ça commence à changer. Et je sentais que Rodolphe avait de plus en plus de difficultés à trouver la bonne histoire pour Trent. Et un jour, on s'est dit, parce qu'on se rencontre toujours, on fait un déjeuner pour parler de nos créations. Et un jour, on lance, ici on faisait un break, une trente, et on écrivait une autre histoire comme ça pour souffler, pour faire une parenthèse. Et lui, dit, je ne sais pas si c'est lui ou moi qu'on lançait l'idée. Il dit, oui, on pouvait faire ça, oui, c'est intéressant. Quel genre d'histoire? Et là, je me dis, c'est moi qui ai dit, j'aime bien dessiner quelque chose dans l'Afrique, ces ambiances des safaris qu'on voyait dans les films anciens avec Clark Gable, Ava Gardner,
oui.
Safari, je s'appelait les films, c'est plein d'animaux, des zèbres, des girafes, des léons, et derrière le Kilimanjaro, c'est beau comme ça pour dessiner, j'adore ça, dessiner ces genres d'animaux. Et ces paysages, je trouve que c'est très graphique, très, très beau, très belle. Et j'aimais bien l'histoire dans les années 30, parce que les vêtements ils étaient beaux dans les années 30, les voitures, les avions, étaient tout très beau, vraiment dessiné. Et Rodolphe dit, oui, c'est pas mal. Mais je préfère après la guerre, années 47, comme ça, juste après la guerre, que c'est une époque, il expliquait pourquoi après la guerre. Il dit, oui, pourquoi pas après la guerre, oui, les avions sont encore beaux, les voitures aussi, et les vêtements aussi sont encore beaux. Ok, va pour après la guerre. Il dit, ok, qu'est-ce qu'on va raconter? Et là, je me suis dit que c'est moi qui ai lancé l'idée. J'avais déjà dans ma tête cette idée. Et imaginez suivant, on est dans ces films là, genre Clark Gable, Ava Gardner, ce sont des Américains qui sont dans un safari en Afrique, classique, tu vois. Ils sont là, les noirs derrière avec qui chargent les trucs comme ça, avec des autres jeeps comme ça, en chassant les lions. Et soudain, dans cette plaine de girafes et de zèbres, passe un Allemand préhistorique. J'avais dit, passe un oiseau, un dodo. J'ai dit un dodo parce que c'est un nom bizarre, oui, le dodo, non? Et c'est un animal qui s'est éteint en 1700 et quelques, des îles Maurice, non? Qui avait le dodo, qui c'est un oiseau qui ne volait pas, quoi.
Ça existait vraiment?
Ça existait vraiment, oui. Hein? Il s'est éteint là maintenant, il n'y a pas très longtemps, à cause de l'arrivée de l'homme. Dans l'île, les animaux ont tué les dodos, qui étaient un gros oiseau, tout bête, parce qu'il n'avait pas de prédateurs. Et qu'on arrive, les chiens, les prédateurs, les hommes même, tu vois, c'est quelque chose, un animal assez mangeable, quoi, que les gens tuaient pour manger. Ils ont éteint l'animal, ils ont massacré, et il a disparu très vite. Et comme c'était un animal récent, je me disais que c'était plus crédible de faire qu'après un dodo. Je dis, un dodo. Mais quand j'ai dit ça, je m'étais trompé. J'imaginais que les dodos étaient énormes dans l'animal, parce qu'il a existé aussi dans ces gens d'île, il avait des plus gros que nos truches, un truc gigantesque, parfois des 3 mètres d'auteur, hein, qui pesait 300 kilos, des oiseaux comme ça. Et dans ma tête, c'était ça, un dodo. Et Rodolphe dit, oui, dit, comment on va expliquer l'apparition? Ah, ça, on va discuter pour trouver l'explication après. Et j'arrive à la maison, je vais chercher l'image de dodo. Et je vois que le dodo, c'est tout bête, comme ça.
Petit.
C'est tout petit, quoi. C'est petit, un peu ridicule, même pas graphique du tout, non. Et j'appelle Rodolphe, je dis, Rodolphe, on a un problème, là. Et Rodolphe, on a un problème, là, notre dodo, il est ridicule, quoi. Il sait Rodolphe, il dit, mais pourquoi il faut que c'est maudit dodo, là, on peut prendre n'importe quel animal. Je dis, bah oui, pourquoi pas, oui, exactement, alors on prend des animaux gigantesques, c'est qu'on veut, quoi. Et t'as raison, voilà, oui, pourquoi pas, pourquoi je dis dodo, ok, on va faire ça. Bon, et l'explication, l'explication, il faut trouver après. Et c'est petit, qu'on s'est rencontrés, il dit, bon, qu'est-ce que va être l'explication de cette scène, quoi. Et comme ça, on invente toute l'histoire de Kenya, qui nous fit ça, c'est tiens.
Hein, oui, c'est tiens, oui c'est absolument.
Avec les coupes volantes et des choses comme ça.
C'est intéressant de voir aussi ces processus de création à deux ou
oui,
à trois.
Oui, tout à fait.
Parce que Kenya, par exemple, tu as fait les dessins et tu as dit que les couleurs, tu les as fait aussi.
Non.
Donc il y a un troisième élément qui rentre.
Et quand
vous allez travailler, vous travaillez aussi avec les coloristes?
Moins, ils participent beaucoup moins. Et j'avais déjà commencé à utiliser un coloriste pour Trent, parce que quand je commence à faire Aldébaran, j'ai dessiné Trent et Aldébaran, je faisais couleur d'Aldébaran, et faire les couleurs de Trent commençait à être dur, quoi. Ça prenait trop de temps, ils ne voulaient pas que chaque tome... Et prend trop de temps à apparaître, quoi. Et j'avais proposé d'utiliser un coloriste pour Trent. Et on a eu la chance d'avoir une très bonne coloriste, une fille qui est une super coloriste, une meilleure coloriste que moi. Et là, elle travaillait dans son coin. Elle était si habile, si talentueuse que... On disait presque rien.
Elle trouvait elle-même les couleurs.
Oui, tout à fait. Elle lisait les scénarios, elle faisait les couleurs. Et chaque fois que j'ai regardé les couleurs, j'étais sidéré. Je me disais, waouh, c'est génial. J'aurais pas réussi à faire comme elle, quoi. Elle était hyper talentueuse, quoi. Pour Kenya, ça a été plus compliqué. Cette fille-là, elle ne voulait plus. Elle faisait autre chose, elle ne voulait plus continuer. On a cherché une autre coloriste qui était moins habile. On discutait un peu plus, là, pour me dire que c'est l'Afrique, le soleil qui tape, les couleurs chaudes, des choses comme ça. C'est tout le soleil qui est en haut.
Oui.
Les ombres sont en bas, les ombres qui s'étirent comme ça. Et là, ça a été un peu plus dur de faire passer cette idée des chauds, des chaleurs, des tropiques. Mais la participation écologique, c'est toujours moindre, parce que... En général, la personne n'habite pas la même ville, il travaille dans son coin, on donne des indications, il lit des scénarios, et c'est tout. Ils envoient parfois des planches, on dit ceci, cela, mais après on laisse la personne travailler, parce qu'on ne peut pas interférer comme ça.
Quand tu fais une bande dessinée de A à Z, combien de temps tu prends par tome, par exemple?
Grosso modo, disons, bien sûr que ça varie, grosso modo, c'est 6 mois pour faire noir et blanc. Après un mois et demi pour faire la couleur.
Wow.
Et pour écrire le scénario, pendant les soirs, les week-ends, je ne sais pas, je ne compte pas. Écrire le scénario, parfois ça va vite quand on a l'histoire dans la tête. Et quand on n'a pas l'histoire dans la tête, ça prend un temps fou. Mais ça prend un temps fou. On travaille, je dessine et je suis en train de réfléchir à l'histoire.
Oui.
Je peux faire les deux choses en même temps. Mais disons que le total, c'est 8 mois, 10 mois pour faire un album.
Alors donc, nous étions à Aldébaran. Il y a cette idée du toujours l'idée finalement, c'est que on va à une autre planète pour des raisons presque d'épuisement de la planète Terre, c'est ça.
Et disons que le schéma de base pour moi c'est toujours le même, c'est-à-dire je crois que mon imaginaire est ancré là sur ce schéma de base. C'était quelque chose qui, depuis mon enfance, je me souviens avec mon frère, on imaginait à l'époque, quand on était gosse, c'est qu'on ressentit les gens qui sont arrivés pour la première fois au Brésil. C'est portugais, oui. C'est portugais dans ces petits bateaux, des marins ignorants comme ça, qui, morts de peur de traverser l'océan, ils arrivent au Brésil, et j'imaginais, ils arrivent à Rio, ils voient cette forêt exubérante, ils voient des plantes qu'ils ne connaissent pas, des animaux qu'ils ne connaissent pas, des Indiens qui pourraient être des êtres mystérieux. Ils ont eu la chance d'avoir vécu ce genre d'expérience, ils ont commencé à découvrir un monde nouveau. On s'est dit, bon frère, ça doit être génial, ces gens qui ont vécu ça, pourquoi nous, on n'a plus la chance de vivre ce genre de choses. Alors, dans mes histoires, je reprends ces chemins-là, et au lieu de découvrir un nouveau continent, on découvre une nouvelle planète, quoi. C'est la même chose.
Oui, oui.
Parfois, on m'a dit, non, mais tes histoires, c'est toujours la même chose. C'est toujours les gens qui arrivent sur une nouvelle planète. Dis, oui, mais c'est un chemin inépuisable. C'est un truc...
Oui.
Non, on peut broder dessus de mille façons. C'est comme la conquête de l'Ouest américain qui a donné 10 000 films et continue à donner. On peut monter n'importe quelle histoire. Parce que la base, c'est une situation incroyable. Ils sont hyper riches, quoi. Et pour moi, c'est de là que tout est parti, quoi. Ces gens des... Si on me dit, les bras, bien sûr, c'est ça, c'est ce schéma-là. Saint-Aurus, là, qui vient de sortir, c'est à peu près ça,
oui,
la même chose.
Même
esprit.
Oui.
Kenya, c'est différent, on a fait un truc basé sur Terre. Oui. Betelgeuse, sur la suite, les bras, Betelgeuse, on t'arrête.
Betelgeuse, oui, c'est ça.
C'est toujours les planètes nouvelles que les personnages vont découvrir petit à petit.
Ils sont les mêmes personnages.
Les mêmes personnages.
Tu reprends les mêmes personnages.
Oui, oui.
Mais c'est intéressant aussi les personnages, parce qu'il y a, par exemple, Pat, mais c'est Pat.
Pat, oui.
Pat ou Pat?
Pat avec un D à la fin.
Avec un D, oui. Ces personnages très spéciaux, quand j'ai lu Saint-Aurus, le garçon là, qui est un peu brut, il m'a fait penser à Pat. Tout à fait le contraire, parce que Pad, c'était justement, il savait plein de choses, il inventait plein de choses, très marrant, très tout. Mais c'est un être, disons, à part, complètement à part. Il y a toujours, non, tu ne sens pas Pad comme ça?
Oui, c'est un être à part, oui, bien sûr, c'est un personnage hors norme. L'étrange, le bizarre, c'est qu'il allait apparaître au début, qui est dans le premier tome. Je voulais que mes personnages, qui étaient encore des jeunes gens, presque des adolescents, rencontrent ce mec qui est hyper expérimenté, hyper vif, et qu'il soit, on les rencontre comme ça, des gens naïfs avec un mec très, très débrouillard et très, très vif. Il allait disparaître là. Mais comme il était hyper sympathique, même son physique, sa gueule, hyper sympathique, il était pas méchant, il était pas méchant. Les gens, les lecteurs ont beaucoup aimé, dans les dédicaces, beaucoup de monde me demandait de dessiner, mais c'est pas. Et petit à petit, je me suis rendu compte que non, c'est un personnage intéressant, qu'il faut le garder, quoi. Il faut le faire évoluer. Et à la fin, il participe à toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Des années après, il est encore là. Quoi.
Oui.
Et d'ailleurs, c'était l'influence justement de lecteurs dans l'évolution de l'histoire. Un truc intéressant, c'était au départ, mon idée, c'était de faire Aldébaran, c'est-à-dire sa aventure dans une planète, et 5 tomes. L'histoire allait finir là. J'allais commencer un autre cycle qui s'appellerait Betelgeuse sur une autre planète avec d'autres personnages. Je voulais garder quelle époque, c'était l'époque où l'humanité commençait à explorer d'autres planètes. Et chaque cycle, c'est l'exploration d'une autre planète avec d'autres personnages complètement différents. Et un jour, j'explique ça quand j'arrive, je suis en train d'arriver à la fin de Aldébaran. J'étais dans une dédicace, quelqu'un me pose la question, je commence à expliquer ça. Il avait une file devant moi et quelqu'un qui était à quatrième ou cinquième place dans la file, une dame avec une adolescente, qui m'entend dire ça, et la dame dit « Ah non, monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Kim, il ne peut pas disparaître. » La gamine aussi dit « Ah non, il ne peut pas disparaître, Kim. Non, monsieur, ne faites pas ça. Sinon, non, il va avoir d'autres pièges. Non, monsieur, Kim ne peut pas disparaître. » Il a dit ça avec une phase si grande comme ça. Je sors de là, je dis, mais c'est bien sûr, c'est idiot. Je mets cinq tomes pour créer les personnages, les faire grandir, les faire évoluer, pour finir les personnages, et je vais détruire, commencer à zéro. Ah non, oui. Ah non, non, il faut garder les personnages. C'est les personnages qui passent vers une autre planète.
Oui.
Et bien sûr.
Au-delà de la technique, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est comme beaucoup de gens qui écrivent des romans ou des bandes dessinées, à un moment donné, quelque part, le personnage, il t'échappe. C'est plus toi qui le contrôle. Ce sont des enfants, et comme les enfants, à un moment donné, ils ressemblent à leurs parents, ils obéissent à leur créateur, et puis à un moment donné, ce sont les lecteurs et même les personnages, jusqu'à quel point ils t'échappent. Parce qu'à un moment donné, on est prisonnier du personnage.
Tout à fait. Il a eu ça parfois échappe à cause des lecteurs, c'est-à-dire les lecteurs influencent l'écriture. Ça, c'est normal, non? C'est un truc hyper intéressant et enrichissant. Mais il y a parfois des personnages qui m'échappent malgré moi. Ça, c'est bizarre. J'entendais dire parfois ça. Je disais, non, ça c'est un peu. C'est un peu trop tiré par le jeu, le personnage t'échappe, tu fais ce que tu veux, tu vas cliquer, tu fais ce que tu veux avec le personnage. Et à la fin, c'était pas ça. Par exemple, il y a un exemple. Dans le cycle Betelgeuse, il y a les personnages de Marc, qui étaient les gamins de Kim, qui ne participent pas trop de ce cycle. Ils restent en arrière, ils ne vont pas à Betelgeuse avec Kim, parce qu'ils voulaient que Kim commence une histoire d'amour avec un autre personnage pour pouvoir compliquer l'histoire. Et j'ai créé un personnage pour faire ça. Et jusqu'à la fin, des 5 tomes que j'écris, j'ai jamais réussi à faire que la chose marche. Chaque fois que j'écrivais des scènes d'approximation de ces mecs avec Kim, ça sonnait faux. Et même la façon dont j'avais dessiné les mecs, si je regardais le dessin, ça sonnait faux, ça ne marchait pas. Et à la fin, il dit que ça ne marche pas. Ce mec et Kim, ça ne colle pas. Alors, il n'a pas eu.
L'homme de Kim, c'est l'autre.
C'est l'autre, il ne sait pas. Il n'a pas eu une histoire d'amour de Kim avec lui, malgré que lui, il était amoureux d'elle, tout, mais elle, toujours en train d'hésiter. Papa. Vraiment, ça m'a un peu échappé, quoi. Je ne voulais pas faire ça au début. Et puis, l'histoire est partie dans notre sens. J'ai dit, OK, va. Ou alors, des choses comme. Parfois, je dessine une scène. Ça se passe aussi sur Antares. C'est très étrange. Ça. J'ai dessiné une scène aussi. Encore avec Kim, les histoires d'amour de Kim, qui c'est toujours une complication. Parce qu'il faut, non, la vie est comme ça compliquée. Non, comme dire, oui, les belles histoires d'amour sont toujours compliquées. Sinon, c'est de la nuit mortelle. Alors, je voulais justement que dans Antares, Kim rencontre encore Marc, son ancien amoureux, depuis qu'ils connaissent depuis l'enfance, tout. Mais je voulais que la chose soit. Les années sont passées, chacun est parti de son côté, les gens changent, les gens mûrissent de façon différente, avec des vitesses différentes. Kim est beaucoup plus mûr que lui. Lui, il continue un peu plus enfantin qu'elle. Et je voulais qu'elle commence à s'intéresser pour un autre mec pendant toutes ces aventures-là, non? Il y avait plusieurs personnages qui pouvaient être le mec intéressant. Et j'hésitais. Et un jour, je dessine une scène où il y a un docteur qui vient partir de l'histoire comme ça. Un truc vraiment secondaire, quoi. Il a ses médecins qui, en dessinant, j'ai fait une gueule assez intéressante pour le mec. Il a une scène où il parle avec Kim. Il a une attitude assez sympathique. Je fais quelque chose de très sympathique à Kim. Et Kim lui dit merci. Il s'en va et Kim reste à les regarder comme ça. Et là, j'ai dit, il s'intéresse, on ne peut pas l'aider avec toi. J'ai dit, oui, Kim, c'est mec, oui, c'est pas mal ça. C'est à cause du dessin que j'avais fait comme ça, pas en pensant ça, tu vois, c'est des inspirations qui viennent.
Oui.
Avec tout le temps qu'on passe à dessiner, à regarder, à réfléchir, à imaginer les choses, on regarde. Ouais, oui, Kim, c'est mec, toi, petit, les choses sont en forme, quoi.
Oui, et finalement, le cours change.
Voilà.
Le cours,
Les personnages deviennent vivants.
Bah voilà.
Tu ne les contrôles plus, ils sont eux-mêmes.
Mmh. Oui, ils deviennent, ils deviennent vivants. C'est marrant parce que tu as raison, quand on entend des écrivains parler de ça, on se dit, mais ce n'est pas possible.
C'est
lui ou ce n'est pas lui qui écrit?
Ouais,
il est maître ou il n'est pas maître de l'histoire?
Je me disais toujours, ça c'est un peu, il dit ça pour se faire intéressant.
Oh.
Mais non, ça m'est arrivé. Voilà.
Feito viaduto e o bêbado trajando luto me lembrou Carlitos e a lua tal qual a dona do bordel pedi a cada estrela fria um brilho de
À partir d'un certain moment, donc, tu es arrivé à écrire le scénario et à donner, à dessiner par d'autres personnes. Il y a plusieurs questions là-dedans. Premièrement, pourquoi as-tu pris cette décision? Et la deuxième question, comment as-tu choisi les personnes qui dessinent pour toi?
Très bonne question.
merci, je suis contente. Oh, tu dis que j'interviewe bien. Très bien.
Et ça a commencé de façon pas planifiée du tout. Et au départ, je voulais faire que des histoires pour moi. Je me considérais comme scénariste pour moi-même, quoi. Pas pour d'autres personnes. Et je faisais Kenya avec Rodolphe, que j'ai dessiné moi-même au départ. Et dans ma tête, c'était ça. J'ai dessiné pour moi-même écrire, pas pour d'autres personnes. Un jour, je connais un garçon... Un espagnol qui s'appelle Sergio Garcia, qui faisait une série chez Dargo qui s'appelait Géographie martienne, qui avait un dessin superbe, superbe dessin, super dessiniste, comme souvent les Espagnols, ils sont superbes dessinateurs, c'est incroyable ça. Et ce mec avait un dessin incroyable, hyper sympathique, le personnage hyper sympathique, des couleurs fantastiques qu'il faisait à l'aquarelle. J'étais très impressionné par la qualité de son dessin. Et en lisant son histoire, j'ai dit, les scénarios laissent à désirer, quoi. Et la série n'a pas marché. Et il a fait un tome, un deuxième tome, un troisième tome, et les ventes diminuaient, et j'ai trouvé que chaque fois, le scénario partait dans tous les sens, c'était pas un bon scénario. C'était un scénario à lui. Et je parle avec l'éditeur que c'est publié en Belgique. Pas ici à Paris, alors pendant plusieurs fois qu'on voit en Belgique, là, je rencontre l'éditeur, je lui dis, écoute, il faut trouver un bon scénariste pour Serge Garcia, parce que son dessin, c'est fantastique, mais son histoire, son scénario, laisse désirer, quoi. Et l'éditeur belge, j'ai dit, bah, qui, pourquoi tu n'écris pas pour lui un scénario? Il dit, ah non, je ne suis pas scénariste, non, t'as tant de bons scénaristes, non, mais lui, il ne parle pas français, tu parles espagnol, il est plus facile pour toi de parler avec lui. Et il dit, non, je dis, non. Après, il parle à Serge de cette possibilité, parce qu'au début, Serge ne voulait pas faire des scénarios d'autres personnes. Et quand il parle de moi à Serge dit, ah oui. Et Serge m'appelle, il dit, Léo, si tu fais un scénario pour moi, ah oui, c'est génial. Et là, ça déclenche dans ma tête, qu'est-ce que vous voulez faire comme histoire pour Serge, qui est un dessin complètement différent du mien, quoi. Un dessin comique, pas réaliste du tout. Alors, ok, je commence à écrire une histoire pour Serge. Et voilà, le premier, c'est venu comme ça, par hasard, quoi. Le deuxième histoire...
Tu l'as édité, cette histoire?
Oui, oui. C'est
lequel? Je
me connais. London.
Dexter London.
Wow.
Oui.
Qui a eu 3 tomes.
Oui, oui.
Le deuxième histoire, c'était la même chose. C'était Frank Picard, qui signe maintenant Icar, qui est un garçon que je connais depuis toujours, des années, quand je suis commencé chez Dargo, il commençait aussi à cette époque-là. On s'est rencontrés, on s'est croisés dans les festivals. C'était un garçon très sympathique. Et le fait qu'il soit sourd m'a toujours impressionné parce qu'il s'est débrouillé hyper bien en étant sourd. Il lit les lèvres, on arrivait à parler avec lui comme ça. J'étais très impressionné, un mec très, très, très sympathique et très intelligent, très vif. Et on s'est devenu amis comme ça pendant des années, quoi. Il faisait des séries avec d'autres scénaristes pendant des années. Jusqu'au jour où il était un peu fatigué là, de faire une série qu'il n'aimait pas trop l'histoire. Il commençait à être un peu gêné, quoi, de faire une histoire qu'il n'aimait pas. Il disait, Franck, on ne peut pas dessiner une histoire qu'on n'aime pas. C'est intenable, ça. Il disait, oui, j'aimerais faire une histoire comme les tiennes, par exemple. Quelque chose pour moi, Léo. Alors, j'ai écrit une histoire pour lui parce que c'est un garçon que je connais, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup, et qui c'est un ami, quoi. Alors, oui. J'ai commencé à écrire une histoire pour lui.
Au
départ, c'était Terre lointaine. Le même schéma, les gens qui arrivent sur une planète, et tout, une famille, oui. la même chose. 5 tomes, il a dessiné les 5 tomes, oui. Ça a marché. Il a un dessin complètement différent du mien, pas réaliste non plus. On fait 5 tomes, l'histoire termine, on continue, on inaugure un nouveau cycle, une nouvelle histoire. C'est pas le même personnage, c'est une autre histoire,
oui.
Complètement différente, c'est Ultime Frontier.
Oui.
Mais c'est... encore la même chose, une autre planète qui est en train d'être colonisée et tout.
Ultime Frontier, c'est intéressant parce qu'il y a un personnage qui est handicapé, mais c'est, cette fois-ci, il est handicapé des jambes.
Oui.
Je ne savais pas qu'Icar est sourd.
Oui.
Je l'ai découvert en lisant les dédicaces du livre. Il dédicace les remerciements. Il remercie entre autres à sa traductrice, celle qui traduit le langage
des signes. Oui.
Et je dis, tiens, s'il y a une traductrice du langage de signes, c'est parce qu'il est sourd. Et là, tu viens parler. Et dans Ultime
Frontière,
il y a un personnage qui n'a pas les jambes. C'est d'ailleurs intéressant, ces dessins avec des roues, le corps et la moitié du corps. On pense aux personnes des guerres qui étaient complètement estropiées. J'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé Ultime Frontière. Oui.
Moi, je pensais que c'était un mutant. Quelqu'un qui
était,
accident ou pas, c'était le produit d'une évolution de l'humanité. Et à un moment donné, on va bien trouver des gens avec des pieds en plus. Hein. Et on était déjà là.
Oui.
C'était pas du tout un invalide, oui. C'est pas du tout un handicapé. Non, c'est quelqu'un qui, au contraire, a des capacités supplémentaires. Parce que la science lui a apporté ça. Je n'ai pas du tout vu comme quelqu'un, entre guillemets, de diminuer, mais... Au contraire.
Mais justement, l'idée de diminuer, c'est intéressant. Excuse-moi, je vais te couper. C'est intéressant. Tout d'un coup, j'ai fait le rapport avec les personnages. Dexter London, il y avait cet extraterrestre absolument fantastique. Comment s'appelait-il?
Dexter London, c'était sur Terre lointaine.
Terre lointaine, oui. Et c'est intéressant tout ça. Des personnages qui ont la moitié de leur capacité, des personnages qui viennent d'ailleurs, des personnages qui sont des monstres, mais tous ils se comprennent. Ce n'est pas un handicap, finalement. Il est super intelligent, d'ailleurs. C'est lui qui découvre plein de choses.
Oui. Elle est plus intelligente que lui.
Oui, bien sûr, bien sûr. Tes femmes, elles sont toujours très belles, très intelligentes, très sexy.
Plus intelligentes que l'homme.
Elles sont très sexy.
Mais là, j'ai dépassé mon imagination parce que j'ai fait le mec, il est handicapé. Et le mec normal qui a perdu ses jambes, c'est que j'ai fait des plus d'ordinaire, c'est sa chaise roulante, elle est hyper pleine de choses.
Il a gagné
autre chose.
Ah oui, il a gagné.
Mais il a un problème avec ça, on va voir, il se sent comme un mec un peu...
Il se sent handicapé.
Il a
un sentiment où parfois c'est évident qu'il ne se sent pas tout à fait normal, et même par rapport à sa sœur, on voit que parfois ce n'est pas tout à fait évident. Non, mais c'est bien. Non, que tes femmes sont toujours très intelligentes, il n'y a pas de doute. Je n'ai pas vu des femmes.
Mais là, il a une autre série dont je suis le scénariste, là, qui n'a pas oublié de parler, que c'est Mermaid Project.
Ah, Mermaid, j'adore.
Et l'histoire, justement, pourquoi une Mermaid, pourquoi notre scénariste, c'est différent, c'était... J'ai eu l'idée de faire Mermaid à cause de Corinne, c'est l'autre scénariste, j'écris avec Corinne Jamard, non? C'est à cause de Corinne, parce que j'avais lu son livre, le livre qu'elle avait fait, Un placement réservé.
Ah, c'est elle qui a fait Un placement réservé.
C'est elle qui a fait, oui, tout à fait.
Ah, c'est beau,
dont on a fait une pièce,
livre. Ah, c'est elle.
J'étais si impressionné par son écriture, parce que c'est presque un monologue de la mère qui a une gamine handicapée.
Oui.
Et presque le livre entier, c'est la mère qui parle, c'est un monologue de la mère. J'ai trouvé que la qualité de l'écriture du bouquin m'a impressionné. Et ça, petit, j'ai un jour dit à Isabelle, ma femme, elle dit, j'aime bien faire quelque chose avec Corinne. Et genre, par exemple, inventer un personnage, et c'était elle qui va écrire un personnage qui parle beaucoup, qui parle un text-off comme ça, non? Et c'est elle qui va écrire ce genre de choses, parce qu'elle a une habileté que je n'ai pas, quoi, pour écrire du français avec tant de raffinements comme ça, non? Et là, cette histoire commence à venir, il va être un personnage, un policier, comme ça, dans le futur, un futur comme ça, qu'on montre là, le monde après.
Le dernier, l'image de Rio, c'est fantastique. Oui,
le monde a complètement changé. Je parle à Corinne, écoute, si on faisait une histoire comme ça, elle adorait l'idée. Et à la fin, plus que se couper du personnage de femme, on a écrit l'histoire ensemble. On a assez influencé mutuellement et on a écrit l'histoire ensemble. Et là, on a écrit d'abord le tome, qui était une histoire pour faire avec Corinne, et après on a cherché le dessinateur.
Ah.
Et là on a cherché le dessinateur, on doutait quel type de dessin il fallait utiliser, pas trop réaliste, moins réaliste, plus dur ou moins dur, comme ça, on hésitait beaucoup. Et un jour, par hasard, je rentre chez moi, je commence à regarder mes bandes dessinées, et je me souviens d'un dessin, d'une série qu'avait fait Fred Simon, que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait Rails, du train.
Les rails du train.
C'est très ancien, oui. J'avais adoré ce dessin, très médiculé, les dessins de personnages, j'aimais adorer ça. Et je ne connaissais pas, il ne travaillait pas pour Dago. Et un jour, je vais chez Le Bescon, l'éditeur Dago, et chez Le Bescon, je pensais à un mec. Et Fred Simon, lui, me dit, je vais poser Fred Simon aussi. Ça, voilà, alors on va parler avec lui, on va proposer à lui. Il a aimé le projet, sauf qu'il fallait attendre qu'il finisse le truc en termes de l'effet, mais on a attendu presque 2 ans pour commencer l'histoire, parce qu'il finissait son truc, là. Toujours, un bon dessinateur a toujours fait quelque chose, pas à la maison on attend, sinon. Alors il fallait qu'il finisse le truc, qu'il fallait le faire. Et voilà, quoi. Et après, on a adoré son style, et je crois que l'histoire se marie très bien avec son style. Et bien sûr, le deuxième tome, le troisième tome, on a écrit en sachant que c'est lui qui va dessiner. Alors ça, On écrit déjà pensant à son dessin et ça, ça performe.
Il a une façon, j'adore la façon comme il fait sa tête. Là, j'ai ouvert les mermaids et la première chose que je vois, la tête de la jeune, comment s'appelle-t-elle ?
Romane, la policière.
La policière, ouais. Elle a toujours la tête, comment on dit en français, le sourcil enfoncé comme ça, comme si elle était préoccupée ou embêtée ou je ne sais pas quoi. J'adore, j'aime beaucoup. Le personnage, ce personnage de cette policière, il ouais, est fantastique.
Encore une c'est... femme forte.
Une femme forte, mais complètement... je vais te dire, elle me fait penser à Brind.
Peut-être je me suis inspiré de Brind consciemment. Quoi.
C'est bizarre, c'est cette fille, c'est ce personnage qui n'a pas, ne sait pas à quoi sert son corps. il est là, elle tourne de tous les côtés, elle est super, hyper vive, intelligente, rapide, ouais. Et les hommes ne lui font pas confiance. Et tout.
Ah oui.
C'est super, moi j'ai été prise depuis les premières pages du premier tome de Mermaid. Donc, je t'ai posé cette question à propos de pourquoi donner à d'autres, parce que ce n'est pas évident au lecteur de faire le saut entre ce qu'ils imaginent maintenant de toi, parce que quelque part maintenant tu es prisonnier. Tu ne l'es pas parce que tu as décidé de faire des scénarios pour les autres. Et moi, je trouve fantastique ça, de faire des scénarios pour les autres. D'autant plus fantastique que tu viens d'expliquer que tu l'écris pour eux. Ce n'est pas eux qui s'adaptent à toi, mais finalement, tu écris pour eux. Je trouve que c'est un mouvement beau dans la vie d'un concepteur.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça qui fait... La chose intéressante, c'est que j'écris pour d'autres personnes des histoires que je n'ai pas le temps de les faire moi-même.
Oui.
C'est impossible que je fasse encore... J'ai fait deux séries totales. J'écris, j'ai fait les noir et blanc, les couleurs. Et c'est impossible que je fasse une troisième. Alors, je ne vais pas m'y priver d'inventer des histoires mirobolantes, des histoires intéressantes, si d'autres personnes dessinent.
Oui. Oui.
Et en plus, il y a des dessinateurs qui font des choses que je ne fais pas.
Léo est-il prisonnier de ses lecteurs? Est-il prisonnier de ses personnages? Vous ne le saurez peut-être jamais. Moi, je suis privilégiée, je connais la réponse. Peut-être la découvrirez-vous lors d'une prochaine émission. Qui sait? Maintenant, l'heure tourne. Les aiguilles de la pendule sont intraitables. Pas question de négocier. Il faut rendre l'antenne et bien... Rendons-la. Merci à Léo pour cet entretien fascinant et chaleureux. Merci à Marie pour le montage, la technique et pour la participation à l'émission.
Ne manquez pas Rêverie brésilienne dans 15 jours.
Non, Marie, en octobre prochain.
Mais oui, laissons passer l'été, Rita.
Oui.
Et on sera là avec toi, Nico et moi.
Heureusement que vous serez là. Et je vous invite à écouter les émissions précédentes, en tout cas.
En entrant dans le site de Radio Larzac, puis dans l'onglet « Son, émission ».
Et vous aurez Rêverie brésilienne rien que pour vous.
Restez à l'écoute de Radio Larzac.
Vous ne regretterez pas.